Chapitre 7. À 7h15, je me rends dans la salle de restaurant près de la réception pour prendre un petit déjeuner composé de lait chaud, de toast et d'œufs au jambon. Ce repas, inclus dans le prix de la chambre, ne me paraît pas très copieux. Il est descendu dans mon estomac en un rien de temps, et j'ai encore faim. Je ne peux m'empêcher de regarder autour de moi, mais aucun deuxième service de toast ne se profile à l'horizon. Je pousse un soupir. « Il faut en prendre ton parti », dit le garçon nommé Corbeau. Tout à coup, je me rends compte qu'il est assis à ma table, en face de moi. « Tu n'es plus dans une situation où tu peux manger ce que tu veux quand tu veux. Tu fais une fugue. Il faut que tu te mettes ça dans la tête. Jusqu'ici, tu te levais tôt et prenais un bon petit déjeuner. Mais maintenant, c'est terminé. Il va falloir te contenter de ce qu'on te donne. Tu sais qu'on dit que la taille de l'estomac varie en fonction de la quantité de nourriture qu'on mange. Tu vas pouvoir vérifier la véracité de cette théorie. Ton estomac va rétrécir, mon vieux. Mais ça va prendre un bon bout de temps. Tu crois que tu pourras le supporter?
Oui.
Bien. Il faut ce qu'il faut, dit le garçon nommé Corbeau. Tu es le garçon de 15 ans le plus courageux au monde. Ne l'oublie pas. Je hoche la tête. Alors, arrête de contempler cette assiette vide et passe à l'action. Je me lève et passe à l'action. Il s'agit d'aller à la réception négocier le prix de ma chambre. J'explique que j'étudie dans un lycée privé et que je suis venu ici pour préparer un exposé de fin d'études. Ce système existait vraiment dans mon établissement. J'ajoute que je vais tous les jours à la bibliothèque Komura pour réunir de la documentation. Mes recherches prenant plus de temps que j'aurais cru, je vais devoir séjourner une semaine entière à Takamatsu. Mais mon budget est limité. Aurait-on la gentillesse de m'accorder une réduction, non pas pour 3 jours, mais pour la semaine entière? Je paierai chaque matin une nuit d'avance et ne leur causerai aucun souci. Planté face à la réceptionniste, je lui raconte toute cette histoire, en faisant tout mon possible pour avoir l'air d'un jeune homme de bonne famille légèrement embarrassé. Je ne me teins pas les cheveux. Je n'ai pas de piercing. Je porte un polo blanc Ralph Lauren impeccable, un pantalon de coton et suis chaussé de Topsiders toutes neuves. J'ai les dents blanches. Je fleure bon le savon et le shampoing. Je m'exprime poliment. Je suis capable de faire bonne impression à des adultes quand je le veux. La réceptionniste m'écoute sans m'interrompre, en hochant la tête, les lèvres un peu pincées. Elle est petite et porte une veste qui fait partie de l'uniforme de l'hôtel sur un chemisier blanc. Elle a l'air ensommeillée mais accomplit efficacement son travail. Elle doit avoir l'âge de ma sœur. « Je comprends votre situation, mais je ne suis pas en mesure de prendre cette décision. Je dois d'abord en parler avec le gérant. Je pourrai vous donner une réponse à midi. » En dépit de son ton administratif, je vois bien qu'elle me trouve sympathique. Elle note mon nom et mon numéro de chambre. Je ne sais pas si cette négociation portera ses fruits. Elle pourrait même avoir l'effet inverse à celui escompté. Si le gérant demandait à voir ma carte de lycéen, par exemple, ou voulait contacter mes parents, bien sûr, j'ai rempli le formulaire avec un faux numéro de téléphone. Mais cela vaut la peine de prendre le risque. Mes moyens financiers sont vraiment limités. Je cherche les coordonnées du gymnase municipal dans le bottin de la réception et téléphone pour demander de quelles machines de musculation ils sont équipés. Ils disposent d'à peu près toutes celles dont j'ai besoin et l'entrée coûte seulement 600 yens. Je demande comment m'y rendre à partir de la gare, remercie et raccroche. Je remonte prendre mon sac à dos, puis me mets en route. J'aurais pu le laisser dans ma chambre ou dans le coffre-fort de l'hôtel, mais cela me rassure de le garder avec moi. C'est comme si ce sac faisait désormais partie de moi. Je prends un bus depuis la gare routière en direction du gymnase. Naturellement, je suis un peu nerveux. Je me sens tendu. Et si quelqu'un se demandait pourquoi un garçon de mon âge se rend au gymnase au lieu d'être au collège? Je ne connais pas cette ville et n'ai aucune idée de la mentalité des habitants. Mais personne ne semble se soucier de moi. Je commence même à avoir l'impression d'être devenu transparent. Une fois arrivé au gymnase, je paie mon entrée sans un mot. Et on me tend, également en silence, une clé pour mon casier de vestiaire. Je me change, enfile mon short de gym et un t-shirt, fais quelques étirements pour me dérouiller les muscles. Je sens que je commence à me détendre. Je suis à l'aise dans cette enveloppe qui s'appelle mon corps. Je m'enferme à double tour dans ses contours bien délimités. Tout va bien. Je reconnais l'endroit. Je commence mes exercices. Tout en écoutant Prince dans mon baladeur MD, je m'entraîne sur 7 machines différentes. Je m'attendais à ce qu'elles soient plutôt vieillottes dans cette salle de sport de province. Mais en fait, elles sont étonnamment récentes. Une odeur d'acier neuf flotte même dans l'air. Je fais une première série en mettant des poids légers, puis j'augmente la charge pour ma seconde série. Je ne vérifie pas le poids exact, mais je sais que cela correspond exactement à ce dont j'ai besoin. Je commence à transpirer et fais de temps en temps une pause pour me réhydrater à la fontaine à eau ou mordre dans un citron que j'ai acheté en route. Une fois que j'ai fini, je prends une douche. J'ai apporté du savon et du shampoing. Je me nettoie soigneusement le prépuce, que je tiens à garder propre. Je me savonne les aisselles, les testicules, me récure l'anus. Je me pèse, vérifie la tonicité de mes muscles, debout, nu, devant le miroir. Je rince mon t-shirt et mon short trempé de sueur au lavabo, les essore et les range dans un sac en plastique. Ensuite, je reprends le bus pour retourner à la gare et m'arrête dans le même restaurant que la veille pour manger des udon. Je prends mon temps et déguste ma soupe de nouilles tout en regardant par la fenêtre la foule qui grouille dans la gare. Tous ces gens soigneusement habillés, leurs bagages à la main, marchent rapidement, chacun se pressant vers un but précis. Et moi, je les contemple fixement, en imaginant le monde dans 100 ans. Dans 100 ans, plus une seule de ces personnes, y compris moi, ne sera sur cette terre. Nous serons tous redevenus cendres ou poussières. À cette idée, je me sens bizarre. Tout ce qui m'entoure me semble éphémère, illusoire, prêt à disparaître dans un souffle de vent. J'écarte mes mains et les examine. Pourquoi est-ce que je me donne tout ce mal ? Pourquoi s'efforcer si désespérément de survivre ? Je secoue la tête, détourne mon regard de la fenêtre, chasse de mon esprit la représentation de ce qui se passera dans 100 ans. Il faut appréhender le présent et rien d'autre. Il y a un tas de livres à lire à la bibliothèque et toutes ces machines à la salle de sport pour endurcir mon corps. Cela ne sert à rien de réfléchir plus avant que ça.
« Il faut ce qu'il faut !» dit le garçon nommé Corbeau. « Tu es le garçon de 15 ans le plus courageux au monde. Ne l'oublie pas !»
J'achète un déjeuner à emporter au même kiosque que la veille, avant de monter dans le train. J'arrive à la bibliothèque Komura vers 11h30. Comme la veille, Oshima est assis derrière son comptoir près de l'entrée. Aujourd'hui, il porte une chemise en rayonne boutonnée jusqu'au cou, un jean blanc et des tennis blanches. Il semble absorbé dans un énorme livre posé devant lui. À côté, il y a le même crayon jaune que la veille, du moins je pense que c'est le même. Sa mèche lui tombe sur le visage. À mon arrivée, il lève la tête en souriant et réceptionne mon sac à dos.
« Tu n'es toujours pas retourné au collège, à ce que je vois ?» dit-il. Je n'y retournerai pas, dis-je en toute franchise.
La bibliothèque me paraît une bonne alternative.
Sur cette remarque, il se retourne, regarde l'heure à l'horloge derrière lui, puis replonge le nez dans son livre. Je me dirige vers la salle de lecture pour lire la suite des Mille et une nuits. Comme d'habitude, une fois que je suis installé et que je commence à tourner les pages, je ne peux plus m'arrêter. L'édition Burton contient les mêmes récits que la version que je lisais enfant, mais avec davantage d'épisodes, des intrigues plus complexes, tellement plus passionnantes qu'il est difficile de croire qu'il s'agit du même livre. Celui-ci est plein d'obscénité, de violence, de sexe et d'absurdité. Il déborde, comme le génie qui ne peut rester enfermé dans sa lampe, d'une vie et d'une liberté que le bon sens ne peut contenir. Ce livre me tient tellement en haleine que je ne peux plus le lâcher. Ces histoires extravagantes, écrites il y a plus de 1000 ans, sont plus réelles, plus vivantes à mes yeux que la foule sans visage qui grouille dans la gare. Comment est-ce possible? C'est ainsi, si étrange que cela paraisse. À 1 heure, je sors dans le jardin et m'installe sur la véranda pour déjeuner. J'en suis à peu près à la moitié quand Oshima vient m'avertir qu'on me demande au téléphone. « Moi ? » fais-je, surpris. Je me lève en rougissant et prends le combiné qu'il tend. C'est la réceptionniste de l'hôtel. Elle a sans doute voulu vérifier que je passais effectivement mes journées à la bibliothèque Komura, comme je le lui avais dit. Au ton de sa voix, je la sens soulagée de constater que je ne lui ai pas menti. « J'ai parlé de votre requête au gérant, » me dit-elle. « C'est la première fois que le cas se présente, mais vous êtes jeune, et les circonstances étant ce qu'elles sont, exceptionnellement, il vous consent le tarif réduit de la YMCA pour la semaine. L'hôtel n'est pas complet en cette saison. Nous pouvons nous permettre cette petite entorse. Et puis, le gérant espère qu'ainsi vous pourrez disposer de tout le temps nécessaire à vos recherches dans cette bibliothèque d'excellente réputation. » Rassérénée, je la remercie. Je suis un peu gêné de lui avoir menti, mais je n'avais pas le choix. Pour survivre, il faut parfois faire des choses contraires à la morale. Je raccroche et rends le combiné à Oshima.
« Comme tu es le seul lycéen à venir ici, j'ai tout de suite compris qu'il s'agissait de toi, » dit-il. « Je lui ai dit que tu lisais passionnément du matin au soir. C'est la vérité de toute façon. »«
Merci, » dis-je.
Kafka Tamura ?
C'est mon nom.
Un nom curieux.
Mais c'est le mien, dis-je pour enfoncer le clou.
Naturellement, tu as dû lire des œuvres de ton illustre homonyme.
Je hoche la tête. J'ai lu Le Château, Le Procès, La Métamorphose, et aussi cette histoire étrange à propos d'une machine à exécuter.
La colonie pénitentiaire, dit Oshima. J'adore cette histoire. Aucun écrivain au monde n'aurait pu l'écrire, à part Kafka.
Moi aussi, c'est la nouvelle que je préfère.
Vraiment ?
Je hoche la tête.
Pour quelle raison ?
Je réfléchis, ce qui me prend un petit moment. Plutôt que d'expliquer au lecteur ce qu'est la condition humaine, Kafka décrit simplement le mécanisme de cette machine complexe. Autrement dit, je fais une nouvelle pause pour réfléchir. De cette manière, il parvient à évoquer mieux que quiconque l'existence que nous menons. Pas en nous parlant de la situation où nous sommes, mais en décrivant en détail cette machine à tuer.
« Je vois, »
fait Oshima en posant la main sur mon épaule. Je sens dans la spontanéité de son geste toute la sympathie qu'il me porte.
« Franz Kafka aurait certainement apprécié ton avis. »
Oshima retourne à l'intérieur de la bibliothèque, le combiné à la main. Je reste sur la véranda pour terminer mon déjeuner. Je bois de l'eau minérale en regardant les petits oiseaux dans le jardin. Ce sont peut-être ceux que j'ai vus hier. Le ciel est entièrement couvert d'un voile de nuages qui ne laisse pas passer une seule touche de bleu. Oshima a paru convaincu par mon commentaire sur les romans de Kafka. Enfin, plus ou moins. Mais moi,
je n'ai pas réussi à lui faire comprendre ce que je voulais vraiment dire. Ce n'était pas seulement une théorie générale sur Kafka. Je parlais précisément de quelque chose que je ressens très concrètement. Cette machine à exécuter, complexe et énigmatique, a existé réellement pour moi. Ce n'est pas une métaphore ni une allégorie. Mais, j'aurais beau expliquer, ni Oshima ni personne d'ailleurs ne pourrait le comprendre.
Je retourne dans la salle de lecture, m'installe sur un canapé et me plonge à nouveau dans l'univers des mille et une nuits. Petit à petit, la réalité autour de moi disparaît, comme dans un fondu enchaîné sur un écran de cinéma. Je m'enfonce seul entre les pages. J'aime cette sensation plus que tout au monde. Quand je sors de la bibliothèque à 5 heures, Oshima est derrière son bureau, plongé dans le même gros livre. Sa chemise n'a toujours pas un pli, et sa mèche lui tombe devant la figure. Les aiguilles de l'horloge derrière lui avancent doucement, sans bruit. Tout ce qui entoure Oshima paraît impeccable et paisible. Il semble impossible qu'un homme comme lui puisse transpirer ou avoir le hoquet. Il lève la tête, me tend mon sac en grimaçant un peu, comme s'il était trop lourd pour lui. « Tu prends le train depuis le centre-ville ? » demande-t-il. Je hoche la tête. « Si tu as l'intention de venir tous les jours, cela te sera utile, » dit-il en me tendant une feuille où sont inscrits les horaires de train. « Les trains sont à l'heure, en général. » « Merci, » dis-je en prenant la feuille. « Dis-moi, Kafka Tamura, je ne sais pas d'où tu viens exactement ni quels sont tes projets, mais tu ne vas pas pouvoir rester éternellement à l'hôtel, » dit-il en choisissant ses mots avec précaution. Il tapote maintenant les pointes de ses crayons du bout du doigt, ce qui est vraiment inutile car ils sont tous parfaitement taillés. Je ne réponds rien. « Je n'ai pas l'intention de me mêler de tes affaires, mais je me disais simplement que ce ne doit pas être facile pour un garçon de ton âge d'être seul dans un endroit où tu ne connais personne. » Je hoche la tête. « Tu as l'intention de continuer ta route ? Ou tu penses rester ici un moment ?» « Je ne sais pas encore, mais je crois que je vais rester quelque temps ici. Je ne sais pas où aller de toute façon. Peut-être devrais-je tout raconter à Oshima. Je suis sûr qu'il respecterait mon choix. Il ne me ferait pas de sermon, n'essaierait pas de me donner un avis plein de bon sens. Mais pour l'instant, je n'ai pas envie d'en parler à qui que ce soit. Je ne suis pas habitué à me confier aux autres, à leur expliquer ce que je ressens.
Pour le moment, tu penses que tu peux te débrouiller seul, alors ?
Je fais oui d'un bref signe de tête.
Je fais des vœux pour que la chance t'accompagne, dit-il.
Les 7 jours suivants se déroulent à peu près tous selon la même routine. J'ouvre les yeux à 6h30 au son du radio-réveil. J'avale le petit déjeuner frugal de l'hôtel. Quand la fille aux cheveux châtains que je connais se trouve à la réception, je la salue d'un geste de la main. Elle me répond par un sourire et un léger signe de la tête. On dirait qu'elle m'aime bien, et c'est réciproque. Je me dis qu'elle pourrait être ma sœur. Je fais quelques étirements dans ma chambre avant de me rendre à la salle de sport pour ma séance de musculation quotidienne. J'exécute toujours les mêmes séries, avec les mêmes poids. Jamais plus, jamais moins. Ensuite, je me douche, en prenant soin de bien nettoyer les moindres recoins de mon corps. Je contrôle mon poids sur le pèse-personne. Vers midi, je monte dans le train en direction de la bibliothèque Komura. J'échange quelques mots avec Oshima au moment de déposer mon sac à dos, et le soir, en le récupérant. Je déjeune sur la véranda, et je lis. Après avoir fini les mille et une nuits, je me suis attaqué aux œuvres complètes de Natsume Soseki, dont je n'ai pas encore tout lu. À 5 heures, je quitte les lieux. Je partage donc mes journées entre la salle de sport et la bibliothèque, des lieux où personne ne me prête une attention particulière. Ce n'est pas là qu'on s'attend en priorité à trouver les collégiens qui font l'école buissonnière. Le soir, je dîne dans mon petit restaurant devant la gare. J'essaie de manger le plus de légumes possible. et de temps en temps, je m'achète des fruits que je pèle avec le couteau que j'ai pris dans le bureau de mon père. J'achète des concombres et du céleri, les rince dans le lavabo de ma chambre d'hôtel, les mange avec de la mayonnaise en tube. Parfois, je m'achète aussi un pack de lait à la supérette du coin et le verse sur des céréales. Quand je rentre à l'hôtel, je m'assieds devant la table pour rédiger mon journal. Puis j'écoute Radiohead avec mon baladeur. Je lis un peu, et à 11 heures au plus tard, je me couche. De temps en temps, je me masturbe avant de m'endormir. Je fantasme sur la fille de la réception. Et dans ces moments-là, j'écarte l'idée qu'elle pourrait être ma sœur. Je ne regarde pratiquement pas la télé et ne lis pas les journaux non plus. C'est le soir du 8e jour que cette existence régulière, simple et centrée uniquement sur moi-même, a volé en éclats. Mais naturellement, cela devait arriver tôt ou tard.